Total, lui, marque le pas après un gain de 5,5% en deux jours. Vous en parliez, une vague de froid sévit aux États-Unis. Elle provoque des pannes sur le réseau électrique au Texas et dans d'autres États. Plusieurs des principales raffineries du pays ont dû fermer leurs portes. Cela fait monter les cours du pétrole. Le Brent de la mer du Nord est à son plus haut niveau depuis un peu plus d'un an, $63 le baril. C'était Céline Pentex, Investir pour RFI.
Merci Céline Pentex. Je vous rappelle l'une des principales informations du jour. Pas de réduction dans l'immédiat des effectifs militaires de la France au Sahel, mise au point tout à l'heure du président Macron en marge du G5 Sahel. C'est la fin du journal. Très bonne fin de journée sur RFI.
Radio G. 101.5 FM.
Qui avait la bonne idée d'écouter Radio G maintenant. C'est l'heure de l'oreille curieuse. Bienvenue dans votre quotidienne consacrée aux actualités culturelles, locales et aux découvertes en général. Notre invité ce soir s'appelle Anatole Edouard Nicolo. Il est personal trainer, c'est-à-dire qu'il a plein de techniques et d'idées pour faire en sorte que les autres atteignent leurs objectifs. C'est même son métier. Nous recevons Anatole à l'occasion de la sortie de son livre « Deviens ton propre héros ». Et ensemble, on va parler d'écriture, de ce métier qui peut paraître un peu étrange ou étonnant de coach et de bien d'autres choses. Derrière le micro, bien entendu, c'est Annelie. Et le proverbe du jour, car oui, il n'y a pas de chronique le mardi dans l'émission, où c'est un peu plus à la carte, on va direct sur le proverbe. Ce soir, c'est un classique parmi les classiques. Comparaison n'est pas raison. Évidemment, il y a aussi un morceau pour ouvrir cette émission. J'ai choisi Grand Écran de Feriel. C'est une jeune artiste parisienne qui va vous faire disco groover. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce titre, avec d'autres, sur la compile Allopop 2 du label La Souterraine. Tout est disponible sur Bandcamp et on mettra les liens, les infos en lien sur le podcast de l'émission, sur le site de Radio G, vous le connaissez, www.radio-g.fr. On écoute Feriel et Grand Écran.
J'attends pas, je vis comme dans un film. Je romance les étapes pour m'en souvenir. Nostalgie d'un scénario. Moi je crois qu'il y a une raison à tout le hasard. Pas pour moi, j'anticipe les coups. C'est virtuel, c'est plus beau. Mais je me sens un peu hors jeu. Vu la hauteur des enjeux. pas à pas. J'avance dans le noir, j'attends de te le voir pour y croire. Pas à pas, j'avance dans le noir, j'attends de le voir pour y croire. Pas à pas, j'avance dans le noir, j'attends de te le voir pour y croire. Pas à pas, j'avance dans le noir, j'attends de.
Alors l'invité de ce soir n'est pas si facile à présenter, en tout cas je le trouve, parce que j'ai l'impression qu'on pouvait avoir des points de départ différents. Il est personal trainer, et je crois qu'on peut dire coach aussi,
ouais.
En tout cas je tente. Bonsoir Anatole, Edouard, Nicolo.
Bonsoir.
Merci à toi d'être dans l'oreille curieuse. Si tu es là ce soir, c'est grâce à Mehdi. Salut Mehdi.
Salut Andy.
C'est toi qui as démarché notre invité aujourd'hui.
C'est bien ça.
C'est toi qui m'as donné le contact. Alors... Anatole, tu accompagnes des personnes dans la réalisation de leurs projets, de leurs objectifs. Toi, tu as une méthode, on va y revenir, qui allie différents aspects. Un aspect sportif, psychologique, la nutrition. Et on te reçoit ce soir, car tu as sorti fin 2020 un livre intitulé « Deviens ton propre héros », dans lequel tu reviens sur ton parcours et sur ce que tu proposes aujourd'hui. J'imagine que tu le sais, Anatole, mais le principe de l'émission, c'est aussi d'avoir des ancrages locaux, de parler de choses qui ont un rapport avec Angers. Et toi, tu as grandi à Angers ?
Oui, c'est ça. Je suis né à Angers jusqu'à mes 15 ans.
Ouais. Est-ce que, justement, avant de devenir personal trainer, tout ce que tu proposes aujourd'hui, tu peux nous parler un peu de ton parcours, où tu es aussi passé par le sport de haut niveau ?
C'est ça. Donc, en fait, comme je te le disais, je suis parti assez jeune, au final, d'Angers, parce que j'étais dans le foot de haut niveau. Donc, j'ai commencé à jouer au plus bas niveau, au final, départemental. Donc, vraiment, là, je partais de tout en bas.
De la cour d'école ?
Ouais. De la cour d'école, exactement. Mais ensuite, j'ai rejoint un petit club de quartier à Angers. Et donc là, c'était assez compliqué parce que, au final, personne ne croyait en moi. J'étais le plus bas niveau départemental. Ensuite, je suis parti du côté du Mans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment développer mon potentiel au niveau du football. Et on m'a recruté dans un club professionnel en Belgique. Donc c'était ma première aventure à l'étranger. Et ça m'a fait un bien fou de découvrir une nouvelle culture, de changer d'horizon, de changer mes habitudes, ma petite routine.
J'ai l'impression en fait qu'il y aurait déjà énormément de choses à aborder dans ce parcours, dans le foot, enfin de s'engager hyper jeune dans cette carrière-là aussi, professionnellement. Mais bon, à 17 ans, toi, t'as fait une rupture radical d'orientation, de projet, enfin t'as complètement lâché
à 18 ans. À 18 ans, ouais, c'est ça. En fait, j'avais pas mal d'expérience. J'étais parti à Manchester pendant 3 mois, puis ensuite au Luxembourg. Et à un moment donné, je travaillais sur moi-même à l'aide d'un coach mental. Et je me suis rendu compte que j'allais être vraiment meilleur pour autre chose. Et donc du jour au lendemain, j'ai dit stop au foot. Donc ça a surpris pas mal de monde parce que tout le monde me connaissait en tant que, entre guillemets, footballeur, quoi. Je parlais que de ça, je vivais pour le foot.
Ouais, puis c'est aussi une carrière qui fait rêver énormément de monde, quoi, de se dire je peux être footballeur professionnel.
Ouais, ça fait rêver, mais après, voilà, moi je préfère vraiment Je veux vraiment insister sur le fait que j'étais pas le plus grand joueur, j'étais pas la pépite en fait. Moi, je pense que je suis arrivé en club professionnel parce que j'ai beaucoup travaillé, mais avec du recul, j'avais pas le talent pour être le nouveau Mbappé ou Zidane. Donc du jour au lendemain, j'ai tout arrêté, j'ai stoppé, et donc ça m'a demandé de réfléchir, de prendre beaucoup de recul sur la situation, parce que c'était pas un choix évident pour moi. J'avais une certaine pression au final de l'extérieur, parce que tout le monde m'attendait dans ce secteur, et c'est vrai que c'était un choix risqué. Et donc à partir du moment où j'ai pris ma décision, j'ai foncé pour pas perdre de temps. Donc j'ai repris mes études et je me suis directement mis à mon compte.
Tu savais déjà que tu voulais être coach, personal trainer, ouais. Ou ça, ça a pris un peu de temps aussi?
Non. En fait, dès lors que j'ai arrêté le foot, j'avais déjà mon plan en tête. Je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout perdre de temps. Ça m'angoisse. Donc j'avais déjà ce plan en tête. J'avais bien sûr pesé le pour et le contre, hein. Je suis pas parti comme un kamikaze, donc non, c'était un choix réfléchi. Et donc j'ai décidé de me lancer à Paris.
Ouais. Et ce projet-là, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette idée de nouveau métier ?
En fait, je trouvais ça vachement intéressant lorsque déjà j'étais dans le foot et que je regardais les préparateurs physiques. Cet aspect accompagnement de la personne, s'intéresser vraiment à la psychologie et en même temps au physique des joueurs. Et donc, c'était un côté qui me plaisait vraiment dans ce métier. Et ensuite, j'ai beaucoup exercé. J'avais même un petit boulot à côté. Je m'occupais de petits garçons qui étaient en surpoids, et donc je les ai fait perdre du poids, et j'ai adoré en fait l'accompagnement et la psychologie dans cette mission.
Ouais. Quand tu présentes ton métier, quand tu dis je suis personal trainer, peut-être que tout le monde voit pas ce que c'est. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Enfin, là, tu nous parles d'accompagnement, de choses comme ça.
En fait, c'est vraiment coach individuel. C'est un métier qui est plus répandu aux États-Unis ou même en Angleterre. En France, ça commence vraiment à se développer, mais c'est vrai que en France, on a quand même pas mal d'années de retard. Donc ça arrive là tout juste. Et donc je m'occupe de la préparation physique, mais individuelle des personnes. J'ai déjà bossé en salle de sport, mais c'est pas quelque chose qui me plaisait. Moi, j'aimais pas ce côté j'ai pas envie non plus de critiquer, mais ce côté un peu animation, j'ai pas envie de bosser dans un club med.
Toi ce qui te convenait, voilà, d'animer exactement. Un groupe. Enfin, c'est deux métiers qui sont différents, j'imagine.
Comment? Un
c'est
groupe?
Animer un groupe et s'adresser à une personne que t'as face à face, c'est vraiment deux actions très différentes.
C'est assez différent parce qu'on enlève, lorsqu'on est dans on coach un groupe, on enlève tout l'aspect psychologique. En fait, c'est plus du coaching personnalisé. Et en plus, le sport, c'est quelque chose au final de très personnel, parce que chaque corps est différent. Il y a des personnes qui vont avoir des blessures, il y a des personnes qui vont être traumatisées du sport. Il y a des tas de personnes là qui, la vision du sport, c'est très douloureux. Ils sont traumatisés par rapport aux cours de sport de l'école, même se mettre torse nu avec la piscine, etc. Donc je sais que c'est pas évident de se confier. Et au final, moi, j'ai privilégié cet aspect confiance, vraiment se réunir dans un lieu où on se sent bien.
Quand tu en parles, je comprends qu'il y a beaucoup d'adaptation aux personnes, ouais, qui viennent te voir, de faire vraiment avec qui elles sont, leurs objectifs aussi, de personnaliser les choses. Quel genre de personnes viennent te voir? Est-ce que c'est des profils très différents? Est-ce que tout le monde peut aller consulter un personal trainer?
Ouais, tout le monde peut consulter un personal trainer. Donc moi, j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir évolué dans le sport de haut niveau. Donc j'ai pu commencer avec des sportifs professionnels. Ça m'a donné une certaine visibilité, et donc j'ai directement enchaîné avec des gens de la mode qui m'ont présenté à des actrices, et donc petit à petit, au final, j'ai développé une clientèle plutôt dans le cinéma et dans la mode. Mais c'est vrai que voilà, je touche à tout, j'ai même des entrepreneurs. Au final, tout le monde a besoin de faire du sport, hein, donc c'est vachement varié.
Ouais, moi je t'avoue que je me sens assez éloignée du monde du cinéma. Du coup, j'ai l'impression que c'est des personnes assez... Je ne sais pas si c'est prestigieuse le terme, en tout cas, j'imagine que toi, tu as rencontré aussi des personnes qui étaient à un haut niveau dans leur domaine.
Ouais, c'est ça, mais j'ai jamais glorifié la célébrité ni idéalisé toute cette notoriété. Donc en fait, quand un acteur ou une top modèle vient me voir, je l'accompagne comme si c'était une personne à côté qui travaillait, qui avait un métier stable et un CDI.
Et que personne connaît.
Voilà, exactement. Au final, ça reste un être humain.
Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta propre méthode que tu as développée, que tu as formalisée, AEN,
un
petit nom comme
ça, initiales.
Et qui mélange, enfin, je l'évoquais tout à l'heure, la préparation mentale, physique et la nutrition.
Donc, j'ai beaucoup observé avant de me lancer et je me suis rendu compte que actuellement dans le fitness, on était vachement porté que sur le physique. On peut le voir si on regarde les réseaux sociaux, les magazines, etc. C'est tout le monde montre ses abdos, tout le monde est le plus beau, tout le monde est le plus fort. C'était un aspect de ce domaine que je n'aimais pas, moi. Je suis pas du tout dans le truc superficiel, ça m'intéresse pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui, au final, me manquaient de confiance, etc. Et il l'a retrouvé à travers le sport. Donc, j'ai voulu rassembler ces deux domaines, la psychologie et le physique. Et bien sûr, pour évoluer dans le physique, j'avais pas le choix de me former en nutrition parce que c'est la base. C'est la base.
Et quel genre de conseils tu donnes ? Enfin, je sais pas, est-ce qu'on peut donner un peu une représentation de ce que tu vas proposer en coaching, ou c'est tellement...
C'est très difficile pour moi de donner une représentation de ma méthode de coaching parce qu'elle est très individualisée. Donc je vais pas du tout avoir le même discours pour une personne qui a peur du regard des autres, par exemple, comme une personne qui a... Je sais pas, je donne un exemple, mais... qui doit prendre du muscle pour son métier, c'est vraiment deux discours très différents. Mais si je peux résumer ma méthode, c'est que je traite trois piliers fondamentaux, la nutrition, le mental et le physique, pour justement développer le potentiel humain des personnes. Parce que je pense que c'est vraiment, plus le mental et le physique va être aligné, plus on va être à 100% de son potentiel. Et on le voit là actuellement, il y a des personnes qui développent que leur physique, et donc ça devient des mecs qui draguent en boîte de nuit. Et après, il y a des personnes qui sont trop dans leur tête, qui vont être toujours dans leur tête, et là, à ce moment-là, il va y avoir des problèmes physiques, que ce soit surpoids, même des maladies, du diabète, cholestérol, etc.
Ouais, on sent que c'est vraiment l'équilibre des différentes sphères qui t'intéresse. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte d'accompagner, de coacher des personnes ?
Ça me porte énormément, en fait. C'est ma passion d'accompagner les personnes. Et puis, ce que je trouve vachement intéressant dans mon métier, c'est que je rencontre tout type de profils, et c'est hyper... bénéfique, c'est ressourçant, en fait. J'apprends beaucoup au final. Je leur apporte ma méthode, mais eux, ils m'apportent quotidiennement leur choix de vie, leurs problèmes, mais aussi leur réussite, leurs bonnes nouvelles, leur sourire, et tout ça, ça me nourrit.
Et ça dure en moyenne combien de temps, coaching?
Un coaching, une séance, ça va être une heure, mais après, il y a des objectifs. Tout à l'heure, j'ai parlé d'acteurs. Je sais que pour préparer une saison, ça peut durer 6 mois, 1 an, pour pouvoir prendre du muscle, prendre de la masse ou perdre du poids.
Ouais, ça dépend des objectifs.
Ça dépend, ouais.
J'ai l'impression que le métier de coach, de personal trainer, alors tu disais, en France on est assez en retard là-dessus, sur le fait de demander de l'aide, d'être accompagné, en tout cas j'ai l'impression que ça se développe quand même, en tout cas que c'est plus visible. Qu'est-ce que t'en penses, et qu'est-ce que tu penses des différentes choses qu'on peut observer, qu'on peut voir?
En fait, déjà c'est une bonne chose, je pense, pour la France, que je pense que c'est vraiment l'actualité, les personnes avec le confinement d'autant plus prennent soin de leur corps. Ils ont compris qu'à un moment donné, ils ne pouvaient pas se laisser aller. Donc je pense que c'est un des côtés positifs, s'il faut en retenir, du confinement. Ça a montré certaines limites. Et donc ouais, c'est une bonne chose que de plus en plus de personnes prennent soin de leur corps. Après, les points négatifs, c'est que donc il y a beaucoup de coachs ou même de sportifs qui se prétendent coach sportif, et ça peut être dangereux parce qu'on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur internet. Parfois certains ne sont même pas diplômés. Donc c'est le danger, c'est il faut vraiment trouver le juste équilibre avec quelqu'un qui est vraiment bienveillant avec ses clients et ne pas tomber dans ce côté un peu plus business.
Ouais, parce qu'il y a aussi tellement de sphères à prendre en compte, enfin que ce soit des questions d'anatomie, de pas se blesser, et puis psychologiquement, de
voilà,
qu'est-ce qu'on
c'est va... ça. Et puis c'est ce qu'on disait, adapter vraiment le coaching à la personne. Moi, je sais que j'ai vu des coachs faire la même séance pour tout le monde. Et ça, c'est impossible de faire ça.
Anatole, je t'ai demandé si tu avais un choix de musique à écouter pour cette émission. Tu m'as dit oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi et pourquoi ?
J'ai choisi Orelsan, Note pour trop tard. Je trouve que c'est vraiment une très très belle chanson parce que quasiment tout le monde peut se reconnaître dans au moins une des phrases. C'est une chanson qui est très simple, mais à la fois très profonde et qui parle à tout le monde. Et je trouve que ce que je viens de dire, ça résume vraiment l'art, en fait, la musique. Et donc, j'ai choisi cette musique, ouais, magnifique.
Il y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, y a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant t'es dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage. Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute, j'ai pris quelques notes. Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. La plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde, parce qu'ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Alors écoute pas trop tes parents, fais semblant. Ils ont pas la science infuse, t'es leur premier enfant. Tu perdrais tellement de temps à batailler. Y'a des combats que tu peux pas gagner, surtout quand tu paies pas le loyer. Fais-toi une raison, y a très peu de raisons de foutre la merde dans sa propre maison, même quand t'as raison. S'il y a une chose que tu dois pas remettre en question, t'es plus intelligent qu'avant, mais t'es toujours très con. T'es trop sensible, tu vis tout comme une agression. Demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond. Autre chose que tu dois savoir, tu baiseras pas ce soir. Une fois que t'auras compris ça, ça t'enlèvera un poids. Parce que t'as beaucoup trop la dalle et ça va se voir. Parce que t'es beaucoup trop timide, tu vas beaucoup trop boire. Apprends à la fermer, t'auras l'air mystérieux. Apprends à te vendre un peu mieux, tu baiseras dans un mois ou deux. C'est toujours le même style de fille dont tu tombes amoureux. Tu sais, le style de fille qui te rend malheureux. Donc fais pas la pleureuse le jour où elle te brise le cœur. Sur la longueur, t'économises des pleurs. Ensuite t'auras peur de t'investir, tu te diras que c'est mieux ailleurs que chez toi. Tu vas rater le meilleur de ce que t'as déjà. En gros, tu couches avec ta meuf en pensant à une autre. T'as pas kiffé. Tu penses à elle quand tu couches avec l'autre une fois qu'elle t'a quitté. Ok. T'empêcheras jamais les gens de parler. Et comme t'es chelou, y'a peut-être moyen que les gens veuillent te frapper. Tu peux faire des pompes, tu peux apprendre à te battre. Mais même musclé, ça fait toujours mal de prendre une droite. Ton cerveau et ton ego fonctionnent à l'envers. Plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire. Quand tu dis que t'as pas peur, c'est que t'as peur. Quand tu dis que t'as pas mal, c'est que tu commences à sentir la douleur. Connais ta hauteur, va pas te surclasser. Tu verras des fois, tu perdras contre des gars que tu trouvais nul à chier. Bien sûr, la vie est un jeu.
juste. Si t'aimes pas les lois, sois pas un putain de juge. Ne crois pas les insultes, y'a pas de race pour être un bâtard. Pour être un fils de pute, pas besoin d'avoir une daronne sur un trottoir. Y'a pas de sexualité pour être un enculé. Plus tu réagis, plus on dirait que tu te sens visé. Laisse glisser. Les meilleures blagues sont les plus méchantes ou les plus bêtes. Mais les pires êtres humains sont des losers cruels. T'en prends jamais aux plus faibles. Garde les vannes dans un coin de ta tête. Ça rentrera dans un texte, dans un film ou dans un sketch. L'école est un calvaire, y'a pas grand chose à faire. Arrêter, c'est partir trop tôt dans une autre galère. Tèche ton sac à dos en l'air, t'auras le poids de la société sur les épaules. Un patron, ton père et ta mère. Trois quarts des cours servent à rien, mais les actrices de boule en soient témoins. Rien branler fait qu'éloigner la fin. Tu dis qu'on verra bien, tu fais le malin, mais t'es fragile. Comme le dépistage, tu regrettes à l'examen. L'école est un filtre qui rend tout très chiant. Comme les films en noir et blanc, le plus dur c'est de rentrer dedans. C'est plus dur quand t'appréhendes comme ta première fois. Je fais des métaphores sexuelles depuis tout à l'heure parce que tu penses qu'à ça. Dis-toi que les latinas sont les plus bonnes du monde, écoute en espagnol. Dis-toi qu'en chimie tu pourrais faire de la drogue. Arrête d'apprendre par cœur des trucs que t'as pas compris. Et en philo t'étais pas censé raconter ta vie. Ah oui, personne t'oblige à fumer de la weed. En fait, ça marche mieux sur les hyperactifs. Être défoncé c'est même pas la partie que tu préfères. Quand t'es déchiré, tout ce que tu fais c'est faire semblant d'être clair. La partie que tu préfères c'est partir en bande à Jardiland, voler du bambou et fabriquer un bang. T'as juste besoin d'une passion, donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. On dira d'être premier, jamais d'être heureux. Premier c'est pour ceux qu'on besoin d'une note, qu'on pas confiance en eux. T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux. À part traîner avec ta bande, surtout pas rater la dernière rumeur, le dernier truc marrant. Honnêtement, tu raterais pas grand chose si tu partais 4 ans. Quoique, c'est important. Fais de la merde tant qu'il est encore temps. Pour pas qu'un jour tu te réveilles à 40 ans. Genre, putain, je vais crever, mais j'ai jamais kiffé. Ma famille m'empêche de vivre, je vais devoir les quitter. Pour sniffer en boîte de nuit, trouver des gamines à vampiriser. J'en vois plein. Donc, petit terroriste, va t'éclater, sors en soirée, même si j'avoue, tu vas te faire recaler. Tu rentreras la semaine prochaine ou l'année d'après. De toute façon, t'allais pas baiser ce soir si je dois te le rappeler. Si tu rentres, prends ton ticket de vestiaire en photo. Rends-toi compte que tu sais pas boire, t'es mort trop tôt. Quand ça devient une fierté de te mettre des grandes doses, c'est que tu t'attaches à pas grand chose. Arrête de flipper, si tu veux, va danser. La seule règle sur la piste, c'est fais pas des trucs que t'as jamais tenté. Si jamais tu t'endors en premier dans une soirée, se regarder dans la glace, c'est la base dès que tu viens de te lever. Au cas où, ça t'évitera de passer les repas de famille avec une bite dessinée sur la joue. Sers pas de famille où tu t'ennuies, où on parle très fort pour dire des choses très banales. Déjà on se parle et c'est pas mal. Les vérités sont compliquées, les clichés sont stables. Désolé s'il y a pas que des experts à ta table. Tu bloques sur les défauts des autres et c'est ton pire défaut. La vie c'est des cycles, c'est pour ça que je retombe sur les mêmes mots. Sois pas parano sur qui sont tes vrais amis. Y'a qu'un seul moyen de le savoir, laisse le temps faire le tri. J'ai jamais regretté de demander conseil ni d'appeler quelqu'un. Souvent tu crois qu'ils sont chelous, c'est juste ça capte pas très bien. La même histoire à plein de versions. La meilleure façon de sortir d'une embrouille, c'est poser des questions. Arrête de passer ta vie à fuir, angoissé par l'avenir, parce qu'il y a rien à faire pour se préparer au pire. Comme les attentats, les mauvaises nouvelles frappent quand t'y attends pas. Des proches un peu pressés partiront avant toi. Tu verras des gens heureux prendre un appel. Leur visage se décompose et rien n'est plus jamais pareil. Y'a rien à faire à part être présent. Penser les plaies, changer les pansements. Le seul remède c'est le temps.
C'est Aurel San et IBI avec Note pour trop tard. Vous écoutez Radio G, le 101.5 à Angers et l'oreille curieuse. On est toujours avec Anatole Edouard Nicolo, qui est personal trainer. coach et qui a sorti un livre, Deviens ton propre héros. Et Mehdi est toujours là aussi, en studio. Anatole, tu nous as parlé de ton parcours, de comment t'envisages ton métier. Là, on est aussi là derrière les micros pour parler de cette sortie de livre. Comment est né ce projet et cette envie de partager ces choses-là à travers l'écriture ?
En fait, déjà à la base, je suis plutôt quelqu'un d'introverti.
Tu veux dire que tu n'aimes pas parler ?
C'est pas que je n'aime pas parler, mais j'aime bien parler pour que ça soit utile. J'aime pas m'exprimer pour ne rien dire ou me montrer, etc. Ça, c'est pas trop mon caractère. Et donc, j'aime bien m'exprimer à travers l'écriture. Et cette nouvelle... Donc en fait, moi, je travaille avec une boîte de management et mon manager m'avait demandé d'écrire quelque chose un petit peu sur mon passé, sur comment je vois les choses, comment je vois la vie. Je lui avais écrit un petit texte, mais vraiment ridicule. Il devait faire une page, seulement une page. Et donc, il avait apprécié, il avait vraiment apprécié ma vision des choses. Et donc, il m'avait dit, voilà, Anatole, on peut écrire un livre. On peut le faire, je le sens, fais-moi confiance, etc. Et moi, c'était un projet que j'adorais déjà, rien que l'idée. Et c'était un rêve pour moi, parce que tout s'est déclenché très rapidement. J'ai signé un contrat avec une maison d'édition. Et là, c'était lancé. Donc j'ai écrit le livre en 8 mois, quasiment tous les jours. Ça a été un gros, gros travail. Et il est sorti direct.
Et ça a été un gros travail parce que c'était nouveau pour toi l'écriture ou bien le principe de mettre des choses en livre, entre guillemets.
Donc en fait ça a été un gros travail parce que c'est un livre qui est quand même assez personnel. Et pour dire les choses dans le livre, il fallait que je les digère déjà. C'était un gros travail personnel déjà parce que c'est quand même une responsabilité. Je sais que des gens vont me lire. J'ai le statut de... J'aime l'expression passeur, en fait, je dévoile mes idées. Donc, émotionnellement et psychologiquement, c'était un effort pour moi de vraiment me remettre en question, de digérer les choses, de digérer mon passé, de voir l'avenir un petit peu. Et ensuite, effectivement, bah, j'avais pas l'habitude d'écrire un livre, mais ça a été la partie la plus facile parce que j'ai été bien accompagné, bien soutenu par les gens qui m'entourent. Donc ça a été.
C'est vrai que c'est un texte qui s'appuie sur ton expérience, alors ouais. Tout en étant elliptique, hein, c'est pas une autobiographie, c'est partir de ton expérience pour dire ce que tu as à transmettre. Il y a aussi des moments de description, des images assez précises de ce que tu as pu vivre, traverser. Et puis au final, le livre, il se construit autour de chapitres mots-clés. De peur de lâcher. Enfin, comment ça s'est formalisé comme ça dans cette construction ?
En fait, j'avais pas envie de tomber dans un livre de développement personnel classique. Il y en a beaucoup et il y en a certains qui le font très bien. Mais moi, ma vision des choses, c'est que là, on a souvent la réponse en nous. Et donc, ça ne m'intéressait pas du tout de donner une recette magique, une recette miracle qui donne toutes les réponses. Faites ça, faites ça, faites ça, et vous verrez, vous avez confiance en vous. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi, j'avais vraiment envie de mélanger trois styles de livres en un seul. Et je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a un côté un peu autobiographique, un côté développement personnel, et le dernier, c'est presque du roman. Avec une histoire, ma rencontre, mes voyages. Donc c'était très important pour moi de mélanger ces trois-là pour justement sortir un peu des codes du développement personnel et me faire plaisir aussi.
Ouais, mais oui, on sent qu'il y a presque plusieurs livres en un,
ouais.
Plusieurs moments. Le titre que tu as choisi, c'est « Deviens ton propre ouais. héros ». Et je me suis demandé pourquoi tu as fait le choix de faire appel à cette figure du héros qui est sur son piédestal, qui peut être extérieur, qui peut être exemplaire aussi.
En fait, parce que moi, pour moi, c'est très personnel, mais je pense que chacun a vraiment du potentiel et a ses rêves, a ses envies. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne les expriment pas parce que soit ils vont avoir la famille sur le dos, ils vont pas avoir confiance en eux, ils vont avoir la société qui les casse à chaque fois. Et héros, c'était vraiment le héros de sa propre vie. Donc ce personnage qui te tire vers le haut, qui est c'est un symbole en fait. Donc j'aimais bien ce terme là et je le trouvais assez puissant. Donc pour le titre, c'était nickel.
Ouais, et quand tu parles d'être au centre de sa propre vie, enfin c'est vrai que c'est ce qui transparaît dans le livre, c'est c'est la question de l'autonomie aussi. Beaucoup.
C'est ça, l'autonomie de sa propre liberté, ses propres choix. Mmh. À chaque fois, c'est vrai que l'autonomie revient. Ouais.
J'ai trouvé aussi que c'était un livre avec les thématiques qu'il aborde, qui forcément ouvrait plein de questions. Aussi dès qu'on est dans l'accompagnement, tu parles beaucoup de moments de bascule aussi. Tu fais le récit d'une rencontre qui a été importante pour toi, tu dis voilà, en 8 minutes ma vie change, etc. Est-ce que tu penses que c'est vraiment des moments qui peuvent être si soudains, ces bascules, ou bien en fait ils viennent signifier des mouvements plus souterrains et plus longs?
En fait, je pense que c'est très important de les créer, ces moments de bascule. C'est ce que j'ai voulu dire à travers toutes ces anecdotes. C'est que si dans la vie, la vie elle est complètement plate, on garde cette routine, on garde ses habitudes, on garde son environnement, son contexte, etc., il n'y a aucun moment de bascule. Et donc là, on peut quasiment écrire le restant de sa vie dans un livre, le refermer, le rouvrir dans 30 ans et on a tout bon. Et donc justement il faut sortir de sa zone de confort, aller faire des nouvelles rencontres, voir des nouveaux lieux. Je dis pas de tout plaquer du jour au lendemain, mais vraiment changer un petit peu sa condition pour justement créer ces moments de bascule. Parce que j'ai un exemple, donc moi j'ai fait mes études à Toulouse. Et dès la fin de mes études, je suis parti à Paris pour me mettre à mon compte et créer ma société. Et là, mes profs, ils me disaient « Mais t'es complètement malade d'aller à Paris, tu connais, t'as aucune clientèle, il y a des gens qui sont bien en place avant toi, etc. » Et au final, si je n'avais pas fait ce voyage, jamais j'aurais pu rencontrer cette maison d'édition, mon manager, etc. Donc j'ai forcément... provoquer mon destin en voyageant, en bougeant de ma zone de confort.
Ouais, se mettre dans une situation un peu périlleuse.
Voilà.
En même temps, si moi j'adore ma vie et que j'ai pas envie qu'elle bascule et que ce soit la même dans 30 ans, c'est grave.
C'est pas du tout grave. Après, il y en a certains qui sont très bien dans leur vie. Il y en a certains. Moi, je parle plus à des personnes qui ont besoin de se développer, qui ont besoin d'être eux-mêmes. Après, je l'espère qu'il y a quand même des personnes qui sont bien dans leur peau, dans leur vie, alignées avec leurs objectifs.
Oui, et tant mieux.
Et tant mieux.
Autre chose qui revient beaucoup dans ce que tu écris, dans ce que tu transmets, c'est la relation d'échange et de soutien, de soutien mutuel. Tu parles beaucoup de Manuel. Alors, forcément qu'on précise, mais on sent que tu précises votre relation, mais on sent que c'est hyper riche dans les échanges, dans ce que ça t'apporte, dans comment t'envisages ton travail. Et je voulais que tu nous parles un peu de ton rapport à la figure du mentor. Peut-être.
Okay.
Toi, comment ça peut t'aider? Est-ce que tu te sens mentor parfois, etc.?
Pour revenir avec ma relation avec Manuel, ça n'a pas été facile parce que, en fait, on est dans un espèce de mythe de se réaliser seul. Et on voit beaucoup cette phrase tu vas réussir seul, avance seul, tu peux compter sur personne, etc. Et ça, je trouve ça vraiment dangereux. Parce qu'au final, on ne réussit jamais seul. Il y a toujours une rencontre, il y a toujours des petites phrases qui vont basculer ta façon de penser, etc. Et donc, c'était pas évident pour moi, parce que j'ai grandi avec ces phrases-là, mais c'était pas évident pour moi de faire confiance à quelqu'un qui était presque étranger, en fait. Donc, il a fallu vraiment que je travaille sur moi-même pour accepter cette aide. Et ça, j'ai vraiment envie de le dire, c'est que il faut accepter aussi l'aide, et c'est pas tout le monde qui arrive à accepter l'aide extérieure, et pourtant c'est nécessaire pour grandir, pour avancer. Sinon, je le dis dans le livre, sinon on avance la tête dans le guidon sans prendre du recul, et là ça peut être dangereux parce qu'on perd en lucidité. Donc sur le mentoring, c'est assez important, c'est quelque chose où j'ai eu de la chance, hein, je m'en rends compte aussi, c'est pas tout le monde qui rencontre un mentor. Mais c'est quelque chose de vraiment beau parce que voilà, c'est partager son expérience, son savoir-faire, ses contacts aussi de temps en temps. C'est vraiment de l'amour en fait de l'amour.
Et justement, enfin, toi, tu as une position où tu accompagnes d'autres personnes, où tu leur apprends des choses, entre guillemets. En même temps, j'imagine qu'il faut continuer à apprendre des choses. Donc, je ne sais pas si ça passe par les situations de mentoring ou d'autres. Enfin, comment toi, tu fais pour continuer à apprendre et développer ton travail ?
Ben, c'est. Je m'organise. En fait, c'est de la gestion. Au final, je me prends du temps pour continuer à me former. J'apprends aussi beaucoup par la littérature. Donc, c'est juste de gérer son emploi du temps pour se garder un créneau pour soi. Parce que c'est vrai que c'est le danger de ce métier. Il est beaucoup tourné vers les autres. Et à un moment donné, si tu prends pas un peu de distance avec tout ce qui t'arrive, tu donnes trop, en fait, et tu te perds. Donc moi, c'est vrai que je prends beaucoup de temps pour moi pour justement être plus fort et ensuite aller accompagner les personnes avec qui je travaille.
Tu disais tout à l'heure, s'il y a des personnes qui sont très bien dans leur vie et qui n'ont pas envie de changer, très bien, c'est super. Moi, je me demandais aussi, parfois, on a envie de changer et puis on n'y arrive pas. Tu vois, on n'en est pas forcément capable, on n'a pas tous les mêmes facilités, difficultés, que sais-je. Est-ce que toi, il y a des situations où tu te dis, bon, bah là, c'est pas moi qui peux résoudre la problématique de cette personne? Est-ce qu'il y a des endroits où tu te dis, je peux pas intervenir en tant que coach, peut-être que cette personne a besoin d'autre chose? Je pense à tout ce qui est question de santé mentale, psychique, par exemple.
Oui. Sinon, j'aurais le diplôme de psychologue.
Comment ça dialogue ou pas ? Est-ce que, enfin, comme ça fait partie aussi de la psychologie de ce sur quoi tu t'appuies, et c'est normal. Comment repérer un peu les limites de là où tu peux agir ? Je pense que c'est hyper dur comme question, mais.
C'est vrai. Là, tu me mets. Là, c'est une sacrée question là que tu me poses. En fait, je sais rester à ma place quand, dès lors que je vois que c'est vraiment quelque chose de profond. Ou que je sens que je n'ai pas les capacités pour aider cette personne, je vais l'orienter vers un spécialiste dans le domaine de la psychologie.
Ça t'est déjà arrivé ?
Non, ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent. C'est pour ça que j'ai eu du mal à répondre à cette question.
Mais
c'est une bonne question, c'est vrai. Mais ça m'est jamais arrivé. Mais bien sûr, il y a des sujets auxquels je n'arrive pas à les traiter parce que c'est peut-être trop profond.
Je comprends. Quand c'est pas qu'une question de volonté, mais des blocages plus profonds, là, c'est pas. C'est pas toi qui va pouvoir résoudre ça ou pas tout de suite, quoi. De la même façon, un peu dans les grandes questions, moi, que je me suis posée en lisant ton livre, en me projetant aussi dans cette envie de changer et de difficulté, tu parlais du besoin d'adapter vraiment ce que tu proposes au parcours des personnes, à leurs désirs aussi, à leurs projets. Comment, toi, tu peux prendre en compte la question de la vie, selon l'endroit où on grandit, son parcours de vie, sa famille, ça va influencer la façon dont on voit les choses, notre confiance, notre comportement. Comment est-ce que, toi, tu peux prendre en compte ou pas ces réalités plus sociales en tant que coach ?
J'ai une grande importance dans la confiance en fait entre mes clients et moi, donc ça va être très important de communiquer. C'est ce que je dis dès lors le premier rendez-vous, même les 5 premières minutes, c'est que j'ai besoin de tout savoir pour pouvoir les aider pleinement. Donc je fais vraiment attention aux détails parce que en fait, lorsqu'on rencontre une personne, la personne va nous dire ce qu'elle a envie de dire. Donc, c'est très facile de se représenter. Voilà, je fais ce projet, tout va bien dans ma vie. Souvent, les détails ne mentent pas. Là, déjà, rien que la posture, une personne qui va être un peu plus fermée sur elle, la façon de s'exprimer, la communication non verbale, tous ces détails-là vont faire que ça va me donner des informations et ça va être après plus facile de communiquer avec eux. Et ensuite, après, ça c'est un petit peu plus, un peu plus spirituel, mais je veux faire vraiment attention à l'énergie qu'ils dégagent, à leur aura. C'est très important pour moi d'être à l'écoute dans un premier temps, enregistrer le plus d'informations, capter le plus d'informations pour pouvoir après bien communiquer avec eux.
T'en parlais un petit peu tout à l'heure, tu l'évoquais en tout cas, la question de l'amour.
Ouais.
Qui prend plus de place aussi au fur et à mesure de ton livre,
ouais.
Là que t'évoques un peu plus longuement, mais pas comme comme quelque chose d'anecdotique ou de, comme ce qu'on va penser une relation entre deux personnes, plus
ouais.
Enfin, etc. ou d'amitié. Qu'est-ce que ça signifie pour toi cette idée-là d'amour et comment ça vient hein?
En fait, c'est moi, c'est quelque chose qui m'a chamboulé vraiment parce que je voulais pas parler d'amour couple, pareil, je pense qu'il y a des spécialistes qui sont meilleurs que moi, mais je voulais donner ma vision des choses et raconter un petit peu ce que j'ai vécu. C'est vrai que j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup d'amour, mais par contre, on avait beaucoup de mal à l'exprimer. Et à côté de ça, au collège, au lycée, ou même avec ses amis, etc., il y avait beaucoup d'amour, mais c'était directement sexualisé. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle d'amour, on va direct penser à une fille ou un mec. Donc moi, je voulais sortir de ces schémas-là et parler de l'amour pur, en fait. L'amour vraiment avec un grand A. Et des petits gestes au quotidien, des petites phrases, être à l'écoute, dire les choses, être honnête, être sincère. Au final, avec ses amis, c'est de l'amour. Donc dès lors qu'on fait attention et qu'on pratique un petit peu ces petits détails, eh bien, je trouve que ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, au final, qui sont en manque d'amour, alors qu'ils sont en couple. Et moi, dans ma façon de travailler, dans la façon dont j'ai écrit ce livre, j'en ai reçu énormément. Et c'était pour moi important de l'évoquer parce que je trouve que c'est vraiment un déclic dans une vie de recevoir de l'amour de ses proches. Et de se nourrir de tout ça au quotidien, ça change beaucoup de choses en termes d'énergie.
Ouais, et que c'est plus une question d'attention, d'observation, enfin des choses que tu évoques dès le début du livre aussi, et de personnalisation aussi pour le coaching.
Ouais, il y a un espèce de tabou quand même, en tout cas dans l'environnement où j'ai grandi, sur l'amour. C'est quelque chose, je sais pas pourquoi, parce que forcément, dans l'amour, il y a une part de sensibilité, il y a une part de fragilité aussi même. Donc, on l'évoque pas trop. Alors qu'au final, c'est pour moi l'énergie la plus puissante au monde. Hein.
Mmh. Mmh. C'est la base.
C'est la base. C'est la base. À la fin, c'est l'amour qui gagne.
Mmh,
donc, faut pas le négliger. C'est se mettre un boulet au pied de se dire on en a pas besoin ou je peux très bien vivre sans, etc. C'est con parce qu'en fait, on se sent tellement plus léger quand on reçoit de l'amour et quand on en donne. Mmh. C'est un carburant puissant.
Ouais. Je sens qu'on va pas avoir le temps de résoudre toute cette question-là. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'en l'évoquant, on peut. Enfin, effectivement, il y a une image qui peut se plaquer du genre, ouais, c'est bon, l'amour, c'est un petit truc. Mais en fait, c'est une question tellement complexe et vaste.
Ouais, c'est. Je suis même pas sûr qu'on ait réglé cette question actuellement, les philosophes, etc. C'est tellement complexe, l'amour.
Mais c'est bien.
Ouais. Ouais.
Peut-être pour conclure, Anatole, est-ce que toi tu travailles là sur de nouveaux projets, des choses qui arrivent?
Ouais, je travaille sur de nouveaux projets. Donc forcément, là, je viens de terminer un premier livre. Il y a l'idée du deuxième qui arrive.
Déjà.
Ensuite, travailler. Sur continuer à vouloir changer un petit peu les codes du fitness. Donc là, je peux pas trop en dire parce que c'est toujours pas officiel. Mais c'est clair qu'il va y avoir de nouveaux projets sur dans le sport, dans la préparation physique et avec d'autres types de personnes.
Merci beaucoup, Anatole Edouard Nicolo. Donc je rappelle que tu es personal trainer. On peut retrouver tout ce que tu proposes sur ton site anatole.life, te suivre sur les réseaux. C'est @anatole_enicolo. J'ai vérifié.
Okay.
J'ai fait ça. T'as l'air de douter, mais c'est ça. Et bien sûr, te lire plus en détail dans ce livre que tu as sorti fin 2020, Deviens ton propre héros. Et tu nous as appris pendant la pause musicale qu'il y avait une playlist même qui allait avec le livre.
Exactement. J'ai écrit ce livre avec mes écouteurs et avec pas mal de voyages également. Et donc, je trouvais ça assez moderne de mettre la petite playlist à la fin du bouquin. Et donc, chaque musique est rattachée à un chapitre.
Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci de m'avoir accueilli.
Merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette oreille curieuse. Vous pouvez la réécouter en intégralité et en podcast sur le site de Radio G à la page de l'émission, bien entendu, www.radio-g.fr. Nous, on se retrouve demain à 18h10. Et comme nous serons mercredi, il y aura Céleste du Guichet Choral, ainsi que Pierre Hugo avec une chronique sur les mots du théâtre. D'ici là, nous attendons vos retours, qu'ils soient positifs, négatifs, entre les deux, vous savez pas trop ce que vous voulez nous dire. Vous pouvez nous écrire via le site de Radio G, le formulaire de contact, ou sur les pages des réseaux sociaux de la radio, Facebook, Instagram et même Twitter. Vous pouvez tenter. À 19h dans quelques minutes, eh bien,
Radio G.